permettez-moi d'abord de vous saluer dans le nom du Seigneur Jésus. Et je veux remercier mes collègues et amis qui ont fait cette proposition. Je ne vais pas l'ajouter. Enfin, merci de tout cœur parce que Dieu sait mieux que quiconque quels sont les besoins. Alors, je vous invite à faire une lecture dans le livre de Josué. Merci beaucoup. 1, 2, 3, c'est bon ça. J'ai l'habitude de parler avec les mains. Il est pas bien là. Voilà. C'est bon. Merci. Alors, je vous propose une lecture dans le livre de Josué, au chapitre 14. Et nous lirons les versets 6 à 15. Alors, il s'agit ici d'une biographie. Mon collègue, donc, M. Robichaud, a abordé Josué, c'était dimanche dernier, avec une image d'une colline qu'il a dû franchir en deux fois. Et j'ai trouvé intéressant, me semble-t-il, enfin vous allez en juger vous-même, de continuer avec le compagnon de Josué, avec Caleb. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Caleb, en hébreu, c'est chien, un chien. Et un chien qui aboie, ça sert à quelque chose. S'il est muet, ça ne sert à rien. Ça arrive. Alors donc, je répète, Josué 14, versets 6 à 15. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, lui dit « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, à mon sujet et au tien à Kadès-Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès-Barnéa pour explorer le pays, donc le pays de Canaan, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. » Notez-le au passage, hein, ça. Et ce jour-là, Moïse jura en disant « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. » Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit, il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse. Donc il avait 85 ans, ce cher Caleb, à peu près mon âge. Alors, lorsqu'Israël donc marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour de Moïse, où Moïse, pardon, m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc, et je vais terminer avec ce verset, donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel parlait dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim. Alors Anakim, c'est des géants, une race de géants, enfin géants, ils devaient faire plus de 2 mètres certainement. Et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, il y a le peut-être, enfin, et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Et Josué bénit Caleb, fils de Jéphuné, et il lui donna Hébron pour héritage. Et c'est ainsi que Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage. Il y a un autre nom pour Hébron, c'est Kiryat Arba. Pour ceux qui sont à cheval sur l'écriture, Kiryat Arba ou Hébron, c'est Kéfif. Donc Hébron s'appelait, ben oui c'est écrit, au verset 15, autrefois, donc Hébron s'appelait Kiryat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim, et le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Alors, il y a quelques décennies, enfin pour les plus âgés d'entre vous, on a beaucoup parlé de l'exploit remarquable accompli par un guide de montagne qui s'appelait Walter Bonatti. Est-ce que quelqu'un se souvient de cela?
Non.
Ah, c'est bien. Ok. Parce que j'ai débuté pour voir de près, de loin, je vois rien. Donc, il avait escaladé la face nord du Cervin en solitaire. Alors, le Cervin, c'est un sommet qui se trouve à cheval entre l'Italie et la Suisse. Il fait quand même 4478 mètres. Donc, son audace, son courage, sa persévérance ont fait, on peut dire, l'admiration des hommes du monde d'alors. Et il s'agit là d'un cas unique dans les annales de l'alpinisme. C'est vieux, ça a dû être dépassé, je pense, par les alpinistes modernes. Mais en lisant le livre de Josué, chapitre 14, donc, que nous avons lu en partie, je me suis aperçu que cette victoire n'était pas si unique. Pourquoi ? Bien parce que, bien des siècles avant Jésus-Christ, un homme de la même trempe, je dirais, que Bonatti, même trempe de courage et de témérité, donc, avait lui aussi vaincu une montagne, Kiryat Arba. Et voici les faits, je vais vous les raconter très brièvement pour arriver à des notions très pratiques. Alors ce matin, je m'adresserai à la fois aux plus jeunes et aux plus âgés. Je ne dis pas aux vieux, hein. Non, non, j'en suis un, mais aux jeunes et aux plus âgés. Alors, donc après la conquête du pays de Canaan, le peuple d'Israël, sous la conduite de Josué, est arrivé à l'heure du partage du territoire. Et alors on assigne à chaque tribu sa portion de territoire et par tirage au sort. Et tout se fait donc avec ordre et méthode, sous l'autorité d'Éléazar et de Josué. Alors Josué, je précise, je ne sais plus si mon collègue l'a dit, mais c'est la même racine que Yehoshua, c'est-à-dire Jésus. Il me semble qu'il l'a dit dimanche. Enfin, ça fait rien. Il vaut mieux répéter, c'est l'art de l'enseignement, la répétition. Alors, mais avant que ce partage ne soit entrepris, voici qu'un homme se lève et va réclamer sa part avant tous les autres. Et c'est ce fameux Caleb, fils de Jéphouné, de la tribu de Juda, et l'un des fameux 12 hommes qui était allé 45 ans auparavant explorer donc le pays promis, Canaan. Et il est donc avec Josué, son chef, le seul survivant de cette génération-là, qui, en châtiment de son incrédulité, je parle de la génération, a complètement péri dans le désert. Toute une génération est restée dans le désert. Alors il va dire ceci, « Donne-moi cette montagne », au verset 12, demande-t-il à Josué. « Elle m'appartient, Moïse me l'a donnée. » N'oubliez pas qu'il a 85 ans, vous allez dire, « Mais on vivait plus vieux à l'époque. » C'est vrai. Mais pas des centaines d'années au temps de Josué. Donc, on ne sait pas, j'ai cherché dans un tas de dictionnaires, je n'ai pas trouvé la date de la mort de Caleb. Mais si Josué est décédé à l'âge de 110 ans, c'était certainement autour d'une centaine d'années. Et il demande, donne-moi cette montagne, à 85 ans. Ça vous dit rien? Non, moi, la montagne, j'aime bien la plaine. Or, cette montagne était l'une des plus redoutables à conquérir, non pas tellement à cause de la difficulté topographique qu'elle présentait, mais plutôt à cause des habitants qui la défendaient, les fameux Anakim, des géants dont le chef s'appelait Arba, A-R-B-A. Et il dit, « Donne-moi Kiryat Arba. » Donc, c'est le fameux Hébron. C'est ce que réclame Caleb. Et personne parmi les fils d'Israël ne va lui contester cette possession. Après Moïse et Josué, Caleb nous apparaît comme, on peut dire, la plus belle et la plus noble figure parmi les Israélites qui étaient sortis d'Égypte. Le peu que nous connaissons de sa vie, on connaît peu de choses de Caleb, nous montre en lui un homme de caractère. J'aime bien ces gens-là. Un homme de caractère, remarquable aussi par sa vaillance et par les décisions qu'il prend, propres à nous servir d'exemple. Et je vais me servir d'exemple dans un instant de cette vie de Caleb. Je vous parle de lui aujourd'hui car il existe un contraste saisissant, je dirais aussi bienfaisant, entre cet homme et un grand nombre de personnes, même parmi les chrétiens, qui passent leur vie à ne pas savoir ce qu'ils attendent de Dieu. Alors, la valeur spirituelle n'est pas seulement l'apanage de la jeunesse. Alors, je m'adresse à la jeunesse, évidemment. Une première leçon se dégage de la demande de notre ami Caleb, et je la transmets tout spécialement aussi à nos amis âgés. Parce que Caleb était un des leurs, en effet, c'était un homme, donc je le répète, un homme âgé de 85 ans, et qui avait un tonus extraordinaire, avec tant d'enthousiasme. C'est un vétéran de plusieurs campagnes difficiles qui a gardé une telle foi en Dieu. À 85 ans, je veux la montagne. Il n'a pas choisi la plaine. Il choisit la difficulté. Et je suis peiné d'entendre certains de nos aînés, alors je m'adresse à eux maintenant, qui ont blanchi sous l'harnais et se retirent de la compétition bien avant que le Seigneur leur en ait donné l'ordre. Et je ne suis pas ce type-là. Vous l'avez remarqué, puis je suis encore là. Ouais. La démission, non. Mission, oui. Pas démission. Alors, que de témoins magnifiques dans leur jeunesse, pour certains. Comme Caleb, à 45 ans. Vrai homme de foi à l'époque, dans leur génération, et qui plus tard ont tellement vieilli spirituellement, je ne parle pas physiquement, mais tellement vieilli spirituellement, qu'ils sont pratiquement inutilisables par le Seigneur dans les ministères que leur maturité leur a signés. Il faut donner une chance aux jeunes. Vous connaissez ça? Oui, j'ai entendu ça. Dans ma jeunesse aussi, hein. Il faut donner une chance aux jeunes, et je ne suis pas contre, évidemment. Alors, c'est ce que nous entendons bien souvent. Et il est vrai, dans un sens, qu'il faut donner, justement, aux jeunes l'occasion de s'épanouir. Chacun parmi nous, enfin, parmi les plus jeunes et les plus anciens, a eu l'occasion d'entendre cela et de se rendre compte que, parfois, même souvent, on ne laissait pas beaucoup la place aux jeunes, enfin, de mon temps. Et ça n'a guère changé, hein. Alors, il faut donner, donc je répète, aux jeunes l'occasion de s'épanouir. Mais il n'est pas moins vrai que, pour les aînés, le meilleur moyen de stimuler les jeunes, ce n'est pas de démissionner, de se retirer de la compétition, mais de s'offrir eux-mêmes, de se renouveler ou de se laisser renouveler par le Saint-Esprit, en Christ évidemment. En un mot, de rester jeune. La jeunesse, ce n'est pas forcément dans les membres, c'est surtout là que ça se passe. Il y a des jeunes vieux et de vieux jeunes. Donc, puisque l'on ne vieillit que lorsqu'on renonce à rester jeune. Alors, je sais bien, et je vais faire la nuance tout à l'heure dans un instant, concernant les difficultés physique que nous pouvons rencontrer, que nous rencontrons en vieillissant. Alors, j'ai intitulé maintenant le complexe vieillesse. N'ayez pas peur, je ne vais pas matraquer les personnes âgées. Hein. Pas plus que les jeunes, d'ailleurs. Alors, je me demande parfois si certains amis avançant en âge ne font pas justement le complexe de la vieillesse. Qu'il me soit alors permis de leur rappeler que seule la maturité et l'expérience sont propices à l'épanouissement harmonieux de la personnalité, et que c'est souvent dans la blanche vieillesse que des génies et des maîtres ont donné le meilleur d'eux-mêmes. J'ai pris un seul exemple pour ceux qui connaissent l'histoire du monde évangélique, John Wesley, sa biographie donc. Il était le père du méthodisme en Angleterre, et qui est passé en France aussi, évidemment. Et il prêchait ses meilleurs sermons à 88 ans. Ça m'a beaucoup encouragé. C'est vrai ce que dit le psalmiste, il dit dans le psaume 92, « Le juste porte encore des fruits dans la vieillesse, et il est plein de sève et verdoyant. » chacun prendra sa part. Je ne sais pas si vous êtes verdoyant, mais l'essentiel, c'est de porter du fruit, même dans notre blanche vieillesse. Et Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde au cœur. Même si la tendance a du mal à suivre, quand je dis la tendance, c'est parfois les jambes, parfois la tête, parfois les bras, enfin, etc. Mais si la tête reste solide en Christ, j'entends bien en Christ, vous pouvez encore porter beaucoup de fruits, quel que soit votre âge. Alors, à 85 ans, Caleb a toujours son esprit de conquête. C'est ça qui me réjouit. Peut-être n'a-t-il plus les forces physiques nécessaires pour accomplir, disons, les désirs de son cœur. C'est fort possible, on peut l'imaginer. Hein. Mais, et nous verrons qu'il a chargé son gendre d'accomplir des exploits. Mais lui, Caleb, reste l'homme de la vision, l'homme du courage, l'homme de l'image du chrétien courageux et encourageant. Alors maintenant, les jeunes ont besoin, et je vous le dis tout cru, ils ont besoin de pères spirituels. J'enseignais pratiquement toute ma vie, et il faut, disons, prendre en main cette charge quand on a de l'âge. C'est-à-dire, essayer d'être pour les plus jeunes des moyens spirituels ou des pères spirituels pour qu'ils puissent croître en vérité et en stature. Alors je répète, les jeunes ont besoin de pères en Christ. Il est également une autre vérité que j'associe à la première. Sachez-le, chers vétérans, bien que les jeunes ne l'admettent pas toujours, ils ont besoin donc de pères spirituels. Je sais que les conseils des anciens n'ont jamais servi aux plus jeunes. J'ai été jeune en son temps, et puis on pouvait me raconter tout ce qu'on voulait, cause toujours tu m'intéresses. Hein? Alors, ici, le proverbe « tel père, tel fils » s'avère juste. Quand il y a un père spirituel à qui on peut faire réellement confiance, c'est une perle. Personnellement, j'ai eu deux pères spirituels. Mon vieux collègue que j'ai remplacé ici, qui m'a connu à l'âge de 16 ans dans son église, nous étions à Gambetta à l'époque, et un autre collègue à qui je pouvais tout dire. Et on a besoin, nous n'avons pas la confession auriculaire chez nous, on se confesse directement à Dieu, hein. Mais si on a besoin de se décharger d'un fardeau, il faut avoir quelqu'un à qui l'on puisse confier ce fardeau sans que 5 minutes après, tout le monde le sache. Oui, oui, vous savez, j'ai bientôt 60 ans de ministère pastoral, alors j'ai tout vu et tout entendu dans ce domaine-là. Oui, surtout, hein, secret, et 5 minutes après, tout le monde est au courant. Oui, alors donc, je pense encore à Caleb, il avait une fille, je ne sais pas si vous la connaissez, elle porte le nom d'une assurance, AXA. Et ça ne s'écrit pas pareil. Hein. Oui. Donc il eut donc une fille, et une fille remarquable. On peut dire là, telle fille, tel père. Elle n'est autre que la célèbre, enfin pour ceux qui la connaissent, AXA, dont il nous est parlé dans le livre des Juges, au chapitre 1er, et dans un premier livre des Chroniques, au chapitre 2e. Alors, quand vint le moment où Caleb dut songer à trouver un mari pour sa fille, c'était l'époque, hein, ça existe encore en milieu juif et en milieu arabe aussi, mais ça existe, hein, c'est les pères qui marient les enfants. Je vais vous dire une chose, mais c'est réel ce que je vais vous dire. Dans le monde juif, il y a encore une cinquantaine d'années, il existait ceci, un dicton. Le mariage est quelque chose de trop sérieux pour le confier à des jeunes. Et c'était pour que les pères et mères ajustent les choses. Alors, quand vint le moment où Caleb dut songer à trouver un mari pour sa fille, il eut cette excellente idée, c'est dans Juges 1.12, écoutez bien, « Que celui qui désire ma fille me montre son courage et qu'il prenne Kiriath Sefer. » Sefer, c'est le livre, et Kiriath, c'était le nom Kiriath Sefer d'une ville à côté de Kiriath Arba. C'était une ville de la région montagneuse de Juda et un dénommé Othniel, O-T-H-N-I-E-L, va s'en emparer de cette ville. Et c'est lui qui deviendra le premier chef du peuple dans la seconde période de l'histoire d'Israël. Et cela est toujours vrai. On peut dire que l'exemple de Caleb a marqué ses descendants. Nous sommes tous marqués par un père ou un maître spirituel en Christ, et c'est dans la mesure où une assemblée possède des hommes de la trempe de Caleb qu'elle enfantera des fils et des filles comme Othniel et Aksa. Nous prions souvent, écoutez bien, nous prions souvent le Seigneur en disant « Envoie des ouvriers dans la moisson ». J'ai entendu ça des milliers de fois. Et c'est presque, je dirais, une lâcheté que d'abandonner à la prière seulement ce que nous devons faire nous-mêmes. Car prier comme le Seigneur le veut, c'est aussi lui dire « Donne-moi cette montagne, Seigneur ». Même la difficulté, ça ne fait rien, tu me donneras les forces nécessaires pour accomplir la tâche que tu m'as confiée. Ou autrement dit, je veux être jusqu'au bout un exemple, un modèle pour le troupeau. Je parle de la part de Caleb. Alors, quel genre de chrétiens sommes-nous? Je vous pose la question, vous y répondrez chacun pour votre part. Écoutez bien, sommes-nous des chrétiens thermomètres ou des chrétiens thermostats? Je ne connais rien en électricité. Enfin, il doit y avoir des gens compétents ici dans ce domaine. Alors, je repose la question, sommes-nous des chrétiens thermomètres ou des chrétiens thermostats? Alors, le thermomètre sert en principe à mesurer la température, tandis que le thermostat sert à maintenir la température. Et je vais revenir à quelque chose de bien précis maintenant. Alors, il y a des chrétiens qui enregistrent et indiquent la température de l'opinion majoritaire d'une assemblée. Si l'assemblée languit, oh ben ils sont languissants évidemment. Si l'assemblée est défaitiste, alors ils sont défaitistes. Si l'assemblée traverse une période de turbulence ou de sécheresse, ils sont tièdes et secs comme du bois mort. Mais il y a d'autre part des chrétiens qui sont thermostats, c'est-à-dire qu'ils influencent la température ambiante. C'est-à-dire qu'ils transforment l'esprit de la communauté au lieu de subir l'esprit de la communauté. Ils ne se résignent pas, tout simplement, voilà l'esprit de Caleb. Ils ne se résignent pas. Ce sont des chrétiens qui sont, comme disait mon cher collègue Christian Rubichon, dimanche dernier, il parlait d'être apte pour cette année 2018. Eh bien, ce que je souhaite, c'est que si je reviens dimanche prochain, en principe je reviens, donc que je trouve des chrétiens, non pas thermomètres, ne confondez pas avec baromètre, mais thermostat, c'est-à-dire qui ne se laisse pas guider par l'ambiance actuelle. Enfin, on n'a aucun problème majeur, je le précise quand même. Alors maintenant, l'homme que veut faire ou qui veut faire quelque chose trouvera toujours un moyen. Et celui qui ne veut rien faire trouvera toujours une excuse. Vous êtes au courant de ça?
Amen.
Si on vous dit, enfin, peut-être votre conjoint ou conjointe, si vous n'avez pas envie de faire la chose et qu'elle vous demande de faire la chose, et puis vous allez laisser glisser. Hein. Ou alors, tout en vous excusant, évidemment, tout en étant poli, mais si vous désirez faire quelque chose de bien, vous allez toujours trouver le moyen de faire quelque chose de bien. Alors nous accepterons toujours vos excuses avec respect, car elles peuvent être valables. Et c'est là où je mets la nuance. Tout le monde n'a pas une bonne santé. Enfin, j'ai subi 7 opérations d'affilée, hein. Donc y compris là, le cœur. Je sais très bien de quoi je parle. Et c'est avec beaucoup de respect, je répète, que je traite de ce sujet. Parce que quand on n'a pas la santé, évidemment, on n'a pas du tout envie d'engager quoi que ce soit vers l'extérieur. Mais combien nous serions enchantés de vous suivre si nous vous entendions dire « Montons, emparons-nous de cette montagne. » Jeune ou âgé, peu importe. Et ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est une légitimité de fierté pour une assemblée de voir se lever et sortir de ses rangs de jeunes évangélistes, de jeunes pasteurs, de jeunes missionnaires qui, demain, reprendront le flambeau. Et moi, je bénis Dieu parce que j'ai été languissant, il faut dire, pendant des années pour savoir qui allait prendre mon relais. Et ce n'est pas toujours facile de trouver les bons hommes. Hein. Je n'ai pas les bonhommes, hein. Les bons hommes qui soient aptes, comme disait notre frère dimanche, aptes à prendre le relais. Et je pense, de tout mon cœur, je bénis le Seigneur parce que le relais a été pris, le virage a été pris et il continue dans la bonne direction. C'est mon avis, je ne sais pas si c'est le vôtre, mais enfin, c'est le mien. Alors, si nous, les anciens, nous assumons aujourd'hui toutes nos responsabilités, eh bien, demain, la relève sera prête. Il y a des jeunes ici, enfin, Sylvain, il n'était pas encore pasteur quand j'ai connu, je ne sais pas où il est passé. Peu importe. Bon, il y en a d'autres qui se sont levés pendant des dizaines d'années, puisqu'on en voit passer dans les années. Et ils se sont levés, et Dieu a permis qu'ils se lèvent pour le Seigneur. Ce n'était pas simplement pour applaudir. Hein. Alors, la foi de Caleb, maintenant, on va terminer avec ça. En terminant, je voudrais, souligner la foi de Caleb. Caleb avait reçu de Moïse, donc, une promesse, lorsqu'il était âgé de 40 ans. En effet, cette montagne qu'il est en train de revendiquer, il l'avait remarquée lors de son exploration avec les 11 autres espions dans la vallée d'Eshkol, où se trouvait la vieille cité d'Hébron. Et voilà donc une personne qui ne trouvera son accomplissement que 45 ans plus tard. Je vais vous donner une expérience faite qui date de 1955. J'avais reçu une promesse de Dieu en 1955 et je me réjouissais beaucoup de cette promesse. Et je suis parti faire la guerre en Algérie avec cette promesse. Elle était toujours dans une poche, j'avais écrite. Et puis, 5 ans ont passé, 10 ans ont passé, comme diraient les Arabes, Makesh Welou, rien du tout. Tu connais ça? Oui, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et je vais vous avouer une chose, c'est qu'au bout de 20 ans, je me disais, c'est terminé. Je me suis illusionné. Eh bien, 30 ans plus tard, en 1985 exactement, la promesse datée de 1955, la promesse est réalisée à la lettre. Et j'ai été confondu devant le Seigneur parce que ce que j'avais dans la poche s'est réalisé à la lettre. Je vous dirais à la virgule près. Hein. C'était fantastique. Donc, ne soyez pas trop hâtif, on va dire, pour essayer de mettre le coup de pouce pour que les choses arrivent plus vite. Non. Le temps de Dieu, c'est un temps marqué par lui, pas par nous. Et votre problème, comme le mien, moi je suis rapide, hein, dans la tête surtout. Maintenant les gens ont du mal à suivre, mais la tête va bien. Mais il m'est arrivé, je l'avoue, d'avoir voulu mettre le coup de pouce pour que les choses aillent nettement plus vite. Mais ce fut la catastrophe à chaque fois. Donc, le temps de Dieu, le temps marqué. Jésus est venu parmi les hommes au temps marqué. Non pas par les hommes, mais par Dieu. 4000 années d'histoire politique, économique et religieuse pour que Jésus vienne parmi les hommes. Hein, il y a 2000 ans maintenant, passé. Donc, pour revenir à la foi de Caleb, en fait, nous avons là le secret de la foi persévérante et du courage de Caleb. Il se trouve expliqué dans cette parole des versets 8 et 14. C'est très court, n'ayez pas peur. 8, voilà. Il est dit « Je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. » Au verset 14, il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voilà la raison pour laquelle Dieu a honoré les désirs de Caleb. Je veux cette montagne. Il l'a eu. Alors, dans le texte original, ce verset laisse entendre que Caleb suivait son Seigneur de si près que personne ne pouvait s'immiscer entre lui et Dieu, donc. Alors, il collait, on peut dire, au talon de son maître. Et on parle souvent de la foi en tant qu'expérience, et je le prône aussi. Mais il faut aussi souligner que la foi, c'est une marche. Je ne parle pas de ceux qui marchent en politique, hein. Non, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais la marche avec le Seigneur, ça c'est le fruit, disons, qui va le moyen qui va permettre de voir du fruit à notre vie. D'ailleurs, l'expérience en général n'est possible justement qu'à cause de la marche. Et voici, en terminant, une vérité bien connue. Ça va, c'est bon. Une vérité bien connue des coureurs. On a parmi nous un cher frère qui est marathonien. Hein? Je ne sais pas où il est, je vois. Ah, te voilà, oui. Roger Dupuis, marathonien. C'est pour ça qu'il est comme ça. Il est costaud. Hein? Donc, je vais vous dire, moi je ne suis pas du tout sportif, mais je sais quand même quelque chose de ce monde-là. Alors, cette vérité bien connue, de laquelle dépend souvent notre faiblesse ou notre force, si nous laissons, par exemple, le moindre écart se creuser entre celui qui nous précède ou celui que nous suivons, comme vous voudrez, nous risquons de tout perdre. Et je me le suis fait confirmer ce matin à la réunion de prière. Moi, je ne sais pas courir. Notre frère a fait je ne sais combien de marathons et il a confirmé que dès l'instant que vous laissez une certaine distance, et ça c'est progressif, hein, il y a 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, et là vous commencez à perdre pied. Hein, et c'est ça qui est la grosse difficulté. Alors je termine, hein, tolérer la moindre distance entre Dieu et nous, c'est courir le risque de le perdre et de perdre la promesse. Il est toujours difficile de combler ce retard. Et que dire de ceux qui passeront seuls la ligne d'arrivée après le délai imparti? Il y a des moments de grâce qu'il faut saisir. Il y a des moments où Dieu semble nous attendre, où il semble même parfois nous pousser, ça arrive. Profitons donc du vent de l'esprit et hissons la voile de l'obéissance. La marche par la foi, c'est ce que je disais dimanche dernier, la communion avec Dieu, la commune union, c'est ça la communion. Commune union à la verticale et commune union à l'horizontale. C'est la dimension de la croix. Il y a une dimension verticale à la croix, une dimension horizontale. Si vous avez une commune union avec Dieu à la verticale, vous pouvez avoir une commune union à l'horizontale avec les frères et les sœurs de votre Église. Oui. Sinon, s'il n'y a pas cette communion verticale, c'est la verticale qui commence. Il n'y aura rien à l'horizontale. Alors, profitons donc du vent de l'esprit, et ils sont la voie de l'obéissance. Donc, je répète, la marche par la foi, c'est la communion avec Dieu, c'est le bienfait de sa présence, c'est la connaissance de sa volonté, c'est le secret de la force spirituelle. Et ce fut donc, en terminant, le secret de Caleb. Le secret de Caleb et de bien d'autres. Alors, deux textes pour simplement en lecture, pour que vous compreniez bien ce que j'ai voulu dire. C'est Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2. C'est ça. Hébreux 12, 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards non pas sur les catastrophes et sur tous les handicaps qui essaient de nous empêcher d'avancer, mais ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite de Dieu. Et le dernier passage, c'est toujours dans Hébreux, chapitre 10. Et c'est le verset 39. Alors, 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, ou qui démissionnent, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme et tendre la main secourable pour ceux qui ont besoin aussi de ce salut. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Nous prions si vous voulez bien.
Amen.
Mon Père Céleste, nos yeux sont tournés vers toi en cette matinée parce que tout simplement, nous reconnaissons qu'en Jésus-Christ, nous avons tout pleinement. Et Seigneur, merci pour cette commune union à la verticale avec toi, quelles que soient les circonstances de, nos vies, parce que tout simplement, tu viens toujours avec une main secourable pour nous sortir des difficultés ou des ornières dans lesquelles nous nous sommes mis bien souvent. Placez-nous-mêmes. Nous te prions, Seigneur, les uns pour les autres, et te demandons, Seigneur, que tu interviennes dans chacune de nos vies pour que nous puissions être de ceux qui te suivent pas à pas et qui ne te précèdent pas sur le chemin en t'indiquant ce qu'il y a lieu de faire. Seigneur, aide-nous à prendre le contact, la commune union avec toi à la verticale pour que nous comprenions, Seigneur, ce que tu désires de chacun de nous. Seigneur, nous sommes tous des êtres fragiles, tu le sais mieux que quiconque, puisque c'est toi qui nous as créés. Mais nous te demandons la force qui vient d'en haut, la force de ton esprit, pour que nous puissions sortir de cette maison de Dieu en te disant, Seigneur, je veux cette montagne, et tu me donneras la force nécessaire pour la gravir. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus, Père. Amen.